Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. L'exécutif promet de nouvelles mesures sécuritaires après les violences qui ont éclaté sur les Champs-Élysées samedi à Paris. Emmanuel Macron attend des propositions en fin de matinée tout à l'heure. Nous verrons en quoi elles peuvent consister. Nous entendrons aussi un économiste à l'aube d'un débat entre le président de la République et près de 70 intellectuels. Un intellectuel justement et un économiste que vous entendrez, lui, est assez critique sur l'exercice. Et puis, quelle réponse apportera l'avionneur américain Boeing aux défaillances relevées sur ses appareils 737 Max, des défaillances similaires lors de 2 crashs en moins de 5 mois, vous le comprendrez. Le Premier ministre Édouard Philippe présentera donc ce matin des propositions relatives au maintien de l'ordre lors des manifestations, des mesures après les dysfonctionnements constatés samedi à Paris sur les Champs-Élysées lors de la mobilisation des Gilets jaunes. Des dysfonctionnements, Édouard Philippe le concède. Après avoir reçu les ministres de l'Intérieur et de la Justice hier, il évoque des insuffisances dans le maintien de l'ordre. Mais derrière les mots, le problème n'est pas simple à résoudre, Jean-Philippe Deniau.
Première option, un changement de stratégie du maintien de l'ordre, passer d'une présence défensive et statique à une présence offensive et mobile, repérer et aller au contact des manifestants les plus violents avant qu'ils ne commettent des dégradations. Mais cette option nécessite une présence policière encore plus importante et surtout, elle entraînera forcément un nombre considérable de blessés, voire un risque de décès. L'efficacité du dispositif s'en trouverait une nouvelle fois remise en cause. Deuxième option, interdire de manifester sur les Champs-Élysées et sanctuariser l'avenue samedi prochain, mais cette solution risque tout simplement de déplacer le problème dans un autre quartier de la capitale, sans compter qu'il est plutôt difficile d'interdire un rassemblement qui à la base, comme c'était le cas samedi dernier, n'est pas autorisé. Plus radical, le gouvernement pourrait déclencher l'état d'urgence, comme il l'avait fait pendant les émeutes de 2005, sauf qu'aujourd'hui, ce serait politiquement risqué d'utiliser contre ce qui reste un mouvement de gilets jaunes des mesures qui ont été déclenchées contre le terrorisme.
Et les adaptations aux dispositifs de sécurité seront donc présentées tout à l'heure à partir de 11h30 à Emmanuel Macron. Un peu plus tard, à 16h30, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, tiendra lui une réunion à Bercy avec des organisations patronales, des représentants des commerçants et des assureurs. Notons que cette nuit, 92 personnes se trouvaient encore en garde à vue. 97 autres doivent être présentées à la justice en vue de suites judiciaires. Un peu plus tard dans la journée, tout à l'heure, Emmanuel Macron va débattre avec 65 intellectuels. À partir de 18h30, cet échange dans le cadre du grand débat national, cet échange sera retransmis en direct sur France Culture. Seront présents entre autres des philosophes comme Marcel Gauchet, Frédéric Worms ou Myriam Revaud-Allonnes, des sociologues également comme Michel Vivorca, Luc Boltanski. On y verra aussi le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, le géographe Hervé Lebras, l'historien Benjamin Stora, des économistes également comme Daniel Cohen. Laurent Davzy, lui, ne va pas participer à ce débat à cause d'un empêchement, mais s'il avait pu, il ne pense pas qu'il s'y serait rendu et il s'explique.
A priori, on m'invite à un débat à la présidence de la République, oui, j'y vais avec plaisir, ça m'est déjà arrivé. Bon, simplement, là, quand j'apprends qu'il y a pratiquement 70 qui vont être présentes, ça devient un peu plus compliqué, c'est-à-dire que dans un débat, c'est une foire d'empoigne. Si chacun parle 3 minutes, déjà il y en a pour 3 heures. Donc c'est une soirée quand même, hein. C'est pas une semaine de réunion. Si on est 70 à vouloir passer un mot, sachant que les intellectuels ou ceux qu'on considère comme tels sont quand même caractérisés par un fort narcissisme quand même assez marqué, vous en mettez 70 dans la même salle, c'est effrayant. Je vois pas ce qui peut sortir de solide, d'utile, de clair. La réunion de tant de gens sur aussi peu de temps et simplement sur le mode de la prise de parole, une prise de parole qui par définition sera extrêmement courte. Donc moi, petit comité avec plaisir, mais ce genre de grand-messe où tout le monde doit pouvoir s'exprimer, tout le monde veut s'exprimer pour pour qu'on sache que chacun s'est exprimé, sans moi.
Un économiste interrogé par Stéphane Robert. Le débat entre Emmanuel Macron et ses intellectuels sera retransmis à partir de 18h30 ce soir sur France Culture en direct. Le projet de loi santé arrive dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale ce lundi. 23 articles au total dont on connaît les grandes lignes. Le gouvernement veut supprimer le numerus clausus, ce seuil maximal d'entrée en deuxième année de médecine. Il crée également des hôpitaux de proximité. Un autre volet de la loi est lui consacré au numérique et encadrera notamment la télémédecine. Des actes qui ont augmenté l'année dernière, le racisme et surtout l'antisémitisme. Cette semaine donc, l'éducation nationale met en place des actions, des événements pour sensibiliser les élèves de toute la France à ce sujet. Semaine spéciale à l'école. Jacques Fredge est le directeur du mémorial de la Shoah à Paris. Accueillant régulièrement un public jeune, il rappelle que l'antisémitisme contemporain n'est plus seulement idéologique.
Nous, on est confrontés à des jeunes qui, le plus souvent, sont antisémites, mais ils l'ignorent. La plupart du temps, ce sont des jeunes imprégnés de stéréotypes et qui vous expliquent calmement les choses en reprenant un certain nombre de poncifs, de préjugés qu'ils ont entendus, qu'ils colportent ou auxquels ils croient ou qu'ils ont lu ou vu sur Internet et donc ils les rapportent. On ne sent pas un antisémitisme idéologique porté par des porte-flingues qui ont des comptes à régler. C'est plutôt l'ignorance, la méconnaissance, le mépris ou alors la jalousie. C'est-à-dire que l'antisémitisme est nourri par l'idée que les Juifs prennent aux autres. Il y a ce fantasme. Et en fait, c'est en cela que je pense que l'éducation a un rôle à jouer parce que à ce stade-là, à ce niveau-là, on peut faire la différence.
Jacques Fredge, directeur du mémorial de la Shoah à Paris, interrogé par Soizigbourg. Il existe des similarités claires entre le crash d'Ethiopian Airlines il y a 8 jours et celui de Lion Air en octobre dernier au large de l'Indonésie. La ministre éthiopienne des Transports l'affirmait hier soir. Elle a évoqué les données des boîtes noires de l'appareil qui sont analysées en France. Dans les deux cas, dans l'Ethiopian Airlines et sur le Boeing de Lion Air, c'est un appareil 737 MAX qui est impliqué, appareil cloué au sol dans de nombreux pays depuis une semaine maintenant. L'avionneur américain, lui, tente toujours de faire bonne figure, Loïc Loury.
Deux catastrophes aériennes en à peine 5 mois pour le 737 MAX. La réponse de Boeing pourtant n'est pas à la hauteur. Le constructeur américain a perdu 25 milliards de dollars de capitalisation mais semble ne pas prendre la mesure de la crise de confiance qui s'est installée. Lundi dernier, Boeing n'a ainsi publié qu'un bref communiqué, pas de mea culpa, pas d'explication. Une réponse bien faible face à l'ampleur du drame et face à l'interdiction de vol dans de nombreux pays du modèle d'avion mis en cause. En coulisses, l'avionneur a préféré s'adresser aux autorités de régulation pour empêcher les États-Unis de bloquer eux aussi l'appareil, mais sans succès. Boeing doit également modifier le système de stabilisation mis en cause dans l'accident de Lion Air en octobre dernier. Mais cela ne présage pas, assure le constructeur, des causes du drame de l'Ethiopian Airlines. Difficile à croire après les premières expertises. Bref, une gestion désastreuse et l'image d'une compagnie arrogante qui va pourtant devoir rendre des comptes. L'une des commissions de la Chambre des représentants envisage en effet d'ouvrir une enquête sur la certification du 737 MAX, tout cela sans compter de possibles actions en justice des familles et une perte de confiance à long terme qui pourrait s'étendre aux autres appareils du géant.
Il ne veut pas d'avocat. Le tueur présumé de la tuerie en Nouvelle-Zélande de vendredi souhaite se défendre tout seul. Nous savons maintenant qu'il s'était procuré une arme sur Internet. Le gouvernement envisage le durcissement des lois sur les armes en Nouvelle-Zélande. La rencontre est prévue à 10h tout à l'heure. Le pape François reçoit au Vatican le cardinal Barbarin. Le plus haut dignitaire catholique français souhaite lui présenter sa démission. Et ce, après sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis il y a 2 semaines pour non-dénonciation d'abus sexuels d'un prêtre sur mineur. Des transports en commun 21% moins chers pour les femmes. L'expérience a lieu aujourd'hui en Allemagne à Berlin. 21% moins cher. Cela correspond à l'écart de salaire moyen constaté entre les femmes et les hommes en Allemagne. L'initiative vient de la société de transport en commun de la capitale. Elle est publique. Notre correspondant Ludovic Piétenu a échangé à ce propos avec des voyageurs.
Les réactions sont globalement positives, l'offre est bien accueillie.
Évidemment, c'est symbolique, c'est qu'une journée, mais quand même, ça peut faire parler du sujet. Je trouve ça cool comme geste.
Alina, comme d'autres usagères des transports en commun berlinois, ont bien conscience, comme le dit ici Rebecca,
it's not solving the problem,
que ça ne règle pas le problème et que de façon plus générale, ça devrait être beaucoup moins cher de prendre le métro. Le train entre en gare, cette fillette tire sa maman par la manche.
Si c'est ça la norme aujourd'hui, alors ça devrait être ce tarif tout le temps, pas juste un jour. C'est injuste.
Catherine, plus âgée, partage cet avis et veut des abonnements moins chers pour les femmes. Une acceptation de cette inégalité salariale qui révulse Martina.
Dans une étude aux yeux des jeunes filles allemandes, l'image de la femme idéale, c'est celle des années 50. En termes d'émancipation, c'est un retour en arrière. Certaines filles prennent les droits qui existent comme acquis et sont même prêtes à retomber dans un rôle de jolie femme et d'objet.
À ces 21% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes, on peut ajouter cette autre donnée de l'Allemagne aujourd'hui. Les femmes perçoivent une pension de retraite 53% inférieure à celle des hommes.
Et ajoutons qu'en France, l'écart de salaire entre femmes et hommes est de près de 24%, tout salaire confondu. Un temps sec et des températures fraîches s'installent de nouveau sur la France. Pas mal de nuages ce matin sur les trois quarts du pays. Comptez 5 degrés à Besançon, 8 à Paris, 11 degrés à Perpignan.